On avait, la dernière fois, fait une courte introduction sur le XIIe siècle et vu les principales dominantes de ce siècle sur le plan de l'évolution de l'Église. Le premier point que nous avons à voir ce soir, c'est ce fameux problème des investitures, conflit qui avait éclaté, nous l'avons vu, au siècle précédent et qui, au début du XIIe siècle, n'était toujours pas résolu. Qu'est-ce que c'était que cette querelle des investitures? Rappelons-le, c'était le problème de savoir qui, du pape ou de l'empereur, avait le droit de nommer les évêques. Dans la mesure où l'Église était une des composantes essentielles du système politique du Moyen-Âge, l'empereur tenait absolument à contrôler l'Église. Quant au pape, qui se considérait non seulement comme un chef spirituel, mais également comme un chef temporel, il pensait être le lieutenant de Dieu pour contrôler non seulement l'Église sur le plan spirituel, mais également l'État, la chrétienté. Il était le chef de la chrétienté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on continue à le désigner aujourd'hui, ce qui prouve bien que ce rêve de la chrétienté n'a jamais quitté les préoccupations de l'Église catholique, même quand, pour des raisons tactiques, l'Église catholique l'a mis un peu en sourdine, et ça ressurgit à fond en ce moment. Donc, c'était le conflit de savoir qui allait dominer l'autre. Est-ce que l'empereur allait contrôler le pape ou le pape allait contrôler l'empereur? Nous avons vu ce terrible conflit qui avait éclaté notamment à l'époque de l'empereur Henri IV, lequel avait dû aller à Canossa, c'est-à-dire demander au pape de lever l'excommunication qui l'avait frappé, à pieds nus, dans la neige, à la porte du couvent de Canossa, du château de Canossa, pardon, dans lequel le pape résidait. En fait, nous l'avons vu, ça avait été plutôt une victoire de l'empereur, qui avait réussi à récupérer son pouvoir qui lui avait été ainsi disputé. Donc, en 1081, nous l'avons vu, le pape Urbain II arrive sur le trône pontifical. Il va régner pendant 11 ans, jusqu'en 1099, l'année de la prise de Jérusalem. Urbain II avait été un homme qui avait été extrêmement ferme dans la question des investitures, semblable en cela à Hildebrand, Grégoire VII, dans la lignée des papes clunisiens. Et c'est pourquoi Henri IV proclame la déchéance du pape et nomme un antipape. Non seulement il nomme ainsi un antipape qui se nomme Guibert. C'était assez courant qu'il y ait un ou quelquefois deux antipapes. C'est assez cocasse au Moyen-Âge. Quand un pape et un antipape n'arrivaient pas à s'entendre, on les déposait tous les deux, on en mettait un troisième. Ça faisait un troisième antipape ou un deuxième antipape. Enfin, selon les canons catholiques, il y en avait un de vrai.
Mais savoir lequel ?
Savoir lequel ? Autre chose. En tout cas, Henri IV marche sur Rome, qu'il prend. À trois reprises, il faudra qu'il prenne Rome. Urbain, en effet, parvient à reconquérir son pouvoir. Henri IV, excédé, fait arracher les yeux de ses adversaires, très chrétiennement, et liquide les autres. Le conflit entre les deux hommes dura toute leur vie. En 1099, Urbain demeure. Un an après, Henri IV le suit dans la tombe. Urbain II a un successeur, mais le nouvel empereur le fait immédiatement détrôner. Donc, nouvel antipape. En tout cas, selon les canons romains, le pape légitime se nomme Pascal II. Il va régner de 1099 à 1118. Lui succède un certain Gélase II, qui va régner de 1118 à 1119, courtement, et un certain Khaled II lui succède, 1119 à 1124. Il faut dire que ces papes n'ont pas la partie facile, car l'exemple d'Henri IV a été contagieux, et d'autres princes européens entendent aussi affirmer leur indépendance face au pouvoir papal. C'est le cas notamment de Philippe Ier de France, qui est un homme épouvantable. C'est un homme qui vit dans l'immoralité la plus totale, qui pratique la simonie, c'est-à-dire il vend les charges épiscopales aux plus offrants. Pour être évêque, il suffit de bien payer, et puis on est nommé évêque immédiatement. La simonie, du nom de Simon le magicien, c'était un des graves crimes du Moyen-Âge, que le trafic des charges ecclésiastiques. Mais quand les caisses de l'État avaient besoin d'être renflouées, les princes n'hésitaient pas à employer ce genre de commerce. Ils vendaient donc des charges d'évêques, de prêtres, de prieurs, d'abbayes, etc., à ceux qui avaient les moyens de payer. Il les mettait aux enchères et celui qui payait le plus avait le poste. Évidemment, la papauté, surtout la papauté clunisienne, avait dénoncé ce genre de pratique, et celui qui était convaincu de simonie, le prince qui était convaincu de simonie, était en principe excommunié. C'est d'ailleurs ce qui va se produire pour Philippe Ier, justement sous ce chef d'accusation-là. Il y a donc à la fois en Allemagne et en France une liste de sièges épiscopaux qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a conflit entre le pape et le prince pour savoir qui va occuper ce poste épiscopal. Donc le conflit va durer. Il va durer longtemps et en fin de compte, les papes vont triompher. L'influence de Cluny en particulier va gagner. Cluny, qui avait acquis dans le peuple une audience très importante, parce que justement, on savait que c'était des hommes probes, des hommes honnêtes, et le petit peuple excédé justement de écœuré du luxe dans lequel vivait le clergé, eh bien, avait pris le parti des réformateurs, et en particulier donc des papes, quand ces derniers s'étaient réclamés de la réforme de Cluny. En fait, après des années et des dizaines d'années de lutte intense, la querelle des investitures va se résoudre elle-même. Il y a un autre pays où cette querelle aussi va devenir aiguë, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui est passée entre les mains des Normands avec Guillaume le Conquérant, et Guillaume le Conquérant entend lui aussi être le chef incontesté de l'Église d'Angleterre. Son fils Guillaume le Roux lui succède. C'est aussi un homme violent, un homme orgueilleux. Et il va se cramponner à la position de son père jusqu'à ce que brusquement, en 1107, d'une manière tout à fait imprévisible, Guillaume le Roux et la papauté arrivent à un accord. Un concordat est signé à Londres cette même année. Et il y a donc une sorte de compromis entre le pouvoir politique et la papauté, au terme de laquelle tout prélat doit prêter serment de fidélité au roi. D'abord, il doit être élu. Ensuite, il prête serment de fidélité au roi. Et ensuite, il est consacré par l'Église. Ça veut dire, en gros, si vous voulez, que à la fois le pape et le roi ont un droit de veto. Si un candidat ne convient pas au roi pour des raisons politiques, il a la possibilité de mettre son veto. Et si le pape estime que le candidat ne fait pas l'affaire, lui aussi a le droit de mettre son veto. Après la mort d'Henri IV, la papauté donc se sert de cet exemple du Concordat de Londres pour tenter d'arriver avec les autres princes européens au même type d'accord. En 1110, un concile est convoqué à Châlons de façon à tenter d'officialiser et de généraliser le Concordat de Londres. En fait, c'est un échec. Le concile se termine par un échec total et les princes européens, notamment le successeur d'Henri IV, refusent l'accord qui lui a été ainsi proposé. C'est alors que Pascal II monte une vitesse. Il interdit aux évêques de posséder des biens temporels et notamment des fiefs, comtés, états, etc., y compris des châteaux forts, car la plupart des évêques se comportaient comme de véritables seigneurs, n'hésitant pas à charger à la tête de leurs troupes des ennemis politiques. Et Pascal II trouvait que quand même, pour des évêques, c'était quand même pas très très évangélique, ce qu'il faut bien admettre. Quelques années passent encore, et en fin de compte, devant ce durcissement de la papauté, Henri V, successeur d'Henri IV, vient lui aussi à composition. Et il signe un concordat, c'est-à-dire, en fait, un an plus tard, en 1111, il signe un concordat avec le pape. L'accord étant conclu, le pape Pascal II couronne Henri V empereur d'Occident. À nouveau, il existe un Saint-Empire romain germanique. Mais on voit encore que le fait que ce soit le pape qui couronne l'empereur est un symbole, c'est-à-dire que l'inférieur est couronné par le supérieur. Indirectement, l'empereur reconnaît la suprématie du pape. Mais la décision de Pascal II d'interdire aux évêques de posséder des biens temporels est fort mal ressentie par ces derniers, on les comprend, étant donné que la spiritualité n'était pas ce qui les étouffait, en général. Et ce qui semblait tout à fait anormal aux yeux des évêques, c'est qu'alors que eux se trouvaient dépouillés de leurs biens temporels, le pape, lui, au contraire, avait des états et se conduisait aussi comme un prince politique. Et il trouvait anormal que le pape n'ait pas suivi l'exemple, n'ait pas donné l'exemple qu'il prêchait et ne se soit pas lui-même dépouillé de ses biens. Pascal II se rend à cet argument péremptoire et il fait machine arrière. Et il revient sur sa décision. En fait, le couronnement tourne court et à nouveau, une querelle éclate entre le pape et l'empereur. Henri V n'accepte pas ce qu'il avait implicitement reconnu en se faisant couronner par l'empereur, par le pape, c'est-à-dire la soumission à la papauté. Et Henri V finira par exiler le pape. Le 12 avril 1111, Pascal II annonce que tous les privilèges des évêques sont rétablis. L'année suivante, il revient sur sa décision et décide à nouveau d'abolir les privilèges des évêques. À nouveau, l'empereur va prendre le parti des évêques contre le pape. En effet, il y a une raison politique péremptoire en cela, c'est que dans la mesure où l'empereur est celui qui distribue les fiefs et où par conséquent les évêques prêtent serment de vassalage à l'empereur, l'empereur a un pouvoir sur eux direct. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi le pape avait voulu l'abolition des privilèges des évêques, pas tant par souci évangélique que par souci politique, parce qu'il les voyait trop inféodés à l'empereur. Et c'est pourquoi, après que le pape soit revenu sur sa décision de rétablir les privilèges temporels des évêques, L'empereur prend le parti de ces derniers contre le pape. Il faudra 10 ans de lutte pour arriver à un accord. Le 23 septembre 1122 est signé le concordat de Worms, qui est calqué sur celui de Londres, où il y a donc un accord mutuel selon lequel l'empereur ne peut pas imposer son candidat, mais il a un droit de veto sur le candidat proposé par le pape. En fait, ce droit de veto, avec beaucoup d'habileté, la papauté s'arrangera avec le temps pour le rendre nul et non avenu. Autrement dit, c'est la victoire totale de l'Église. Et le XIIe siècle est l'époque où l'Église atteint un pouvoir inégalé dans l'histoire de l'Église. On peut dire que la papauté est réellement la puissance qui contrôle l'Europe chrétienne. Ainsi donc s'achève cette querelle des investitures par la victoire totale de la papauté. Deuxième point en ce qui concerne l'histoire du XIIe siècle, c'est l'épanouissement du monachisme. Le XIIe siècle est une époque où le monachisme va fleurir. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte de lutte politique et fort peu spirituelle, un certain nombre de gens ont soif d'authenticité, de vérité, et voudraient vivre un évangile véritable. Or, une telle aspiration implique soit une réforme de l'Église, dont il n'est évidemment pas question, l'Église étant par trop liée au pouvoir politique, soit alors une sortie du monde. Et comme le monachisme est une voie de garage que la papauté a utilisée depuis longtemps pour canaliser les gens un petit peu trop turbulents, qui voudraient trop la remettre en question, eh bien l'Église encourage le développement du monachisme à cette époque-là. Le XIIe siècle voit se créer un certain nombre d'ordres nouveaux, notamment autour du monastère d'Ischau en Allemagne. Et le monastère d'Ischau est le premier des monastères qui crée ce qu'on appelle un tiers-ordre. Un tiers-ordre, c'est un certain nombre de laïcs, de gens qui sont dans le siècle, qui ont une profession, qui sont mariés, qui ont des enfants, etc., mais qui sont attirés par la spiritualité de l'ordre auquel ils vont se trouver rattachés. Et il existe pour ces laïcs-là une règle qui est inspirée de la règle de l'ordre et qui font que spirituellement, le tiers-ordre est rattaché au monastère. Mais il est évident que l'engagement du tiers-ordre est moindre que l'engagement de ceux qui sont réellement membres de la communauté monastique. À partir de cette époque-là, tous les ordres religieux réguliers catholiques vont développer un tiers-ordre jusqu'à aujourd'hui. Le plus célèbre des tiers-ordres, celui qui viendra au siècle suivant, ce sera l'ordre franciscain, le tiers-ordre franciscain, qui a encore aujourd'hui de nombreux adeptes. Il y a un autre grand centre monachique qui naît à peu près à la même époque, c'est l'abbaye de Fontevraud, en France, qui est créée essentiellement dans deux buts. Premièrement, pour donner aux pénitents les moyens de faire leur salut, c'est-à-dire le Moyen-Âge, le XIIe siècle en particulier, est un siècle particulièrement agité sur le plan des mœurs, le clergé lui-même donnant souvent l'exemple, les hommes politiques aussi, et il arrive qu'un certain nombre de grands pêcheurs ou de grandes pécheresses, souvent c'est des femmes d'ailleurs, sont soudain saisis par le poids de leurs péchés et demandent à faire pénitence. Car à cette époque-là, c'est comme ça qu'on fait son salut, on fait pénitence. Or, pour faire pénitence, il y a deux moyens. Si l'on est homme, le moyen classique de faire pénitence, c'est la croisade. Si on est femme, on n'a évidemment pas cette possibilité-là. Et c'est pourquoi des ordres spéciaux sont prévus, notamment celui de Fontevraud, pour permettre aux femmes pénitentes de venir ainsi obtenir le pardon de leurs péchés par des jeûnes, par des prières, par le renoncement au monde. Dans le même temps, les femmes n'ayant pas la possibilité de participer directement à la croisade, la vocation de l'ordre de Fontevraud, c'est aussi de prier pour le succès de la croisade. Les femmes, donc, prient pour le succès des hommes qui combattent là-bas, en Orient. En 1121, un ordre qui existe encore aujourd'hui est créé, c'est l'ordre des Prémontrés, qui, lui aussi, va avoir des bus similaires à celui de Fontevraud. C'est aussi l'époque où apparaît un théologien, qui se nomme Yvan de Chartres, qui commence à poser les bases de ce qu'on appellera plus tard le droit canon. Et sa, comment dirais-je, sa doctrine essentielle, c'est que les lois doivent être en harmonie avec les lois du pays et de l'époque. Ce qui est très en avance sur son temps, puisque Giscard d'Estaing avait cette même doctrine. Je ne sais pas s'il connaissait Yvan de Chartres, ou si c'est une coïncidence. Mais l'événement majeur du XIIe siècle, c'est l'ordre de Clairvaux. C'est-à-dire, en fait, une nouvelle réforme. Depuis un siècle, la réforme de Cluny s'est essoufflée. L'ordre de Cluny a connu les vicissitudes de la plupart des ordres religieux, on pourrait dire de tous les réveils, de la plupart d'entre eux du moins, savoir qu'au bout de 2 ou 3 générations, le réveil s'éteint. L'ordre de Cluny, qui au départ se voulait un ordre réformateur, une réforme de l'Église, lui-même est tombé dans les ornières qu'il avait dénoncées, notamment le luxe. Les abbayes sont devenues extrêmement riches, le réseau d'abbayes qui a été créé en Europe s'est enrichi, est entré dans le système politique, puisqu'il avait réussi à s'emparer du trône pontifical. Et la doctrine de Cluny au XIIe siècle était qu'il fallait, en quelque sorte, que les abbayes, et plus on était élevé dans l'ordre, le prieur de l'ordre vivait comme un véritable prince pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. La richesse de l'ordre était un signe de la bénédiction de Dieu et que l'on glorifiait Dieu. En 1122, un certain Pierre le Vénérable trouve que la réforme de Cluny s'est complètement enlisée à dévier. Et Pierre le Vénérable estime que le temps est venu pour une nouvelle réforme. Il y a à cette époque-là une expansion extraordinaire du clergé régulier, de l'avons-vu, et notamment de l'ordre de Cluny. Et Pierre le Vénérable s'en prend particulièrement au prieur de Cluny, à son luxe ostentatoire dans le but du prestige de l'ordre. Et en 1160, il crée un ordre nouveau, l'ordre de Cîteaux, qui est une réforme de l'ordre de Cluny. Cîteaux du nom de l'abbaye qu'il fonde en 1160. Et lui revient à une règle extrêmement dure, extrêmement contraignante, qui existe encore aujourd'hui. L'ordre cistercien, c'est l'ordre des fameux trappistes, n'est-ce pas ? Et Pierre le Vénérable donne comme règle, alors, une très très grande pauvreté. La prière, y compris la nuit. Il interdit toute nourriture raffinée, ainsi que des vêtements trop riches. Et c'est dans le cadre de cette réforme de Cîteaux que va apparaître une des plus grandes figures de l'Église du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux. Alors, la règle de Cîteaux prévoit, entre autres, que les moines ne doivent se nourrir que de légumes. La viande est totalement interdite. Il y a 6 heures de prière par jour obligatoire. Plus ensuite, on peut en ajouter si le cœur en dit. Les moines vivent dans une communauté totale, mangent dans un réfectoire commun, dorment dans des réfectoires communs. Ils dorment tout habillés, qui plus est, pour pouvoir être prêts à se lever la nuit pour la prière. Et à l'inverse de ce qu'était la base de la réforme de Cluny, chaque communauté est autonome. Nous avons vu que à Cluny, c'était l'inverse, savoir qu'à partir du moment où une filiale de la maison mère se créait, elle était, elle était soumise au centre de Cluny. Pierre le Vénérable lui prend exactement le contre-pied et il estime que chaque filiale qui est créée par Cîteaux devient autonome par rapport à la maison mère. Pierre le Vénérable introduit aussi et développe sur une grande échelle les ordalies et les indulgences. Et en même temps, c'est lui qui introduit la pratique de l'absolution du prêtre, c'est-à-dire que le prêtre a la possibilité d'absoudre les péchés du pénitent. Quand le pénitent est venu se confesser, le prêtre lui déclare « Je t'absous de tes péchés ». Non pas « Dieu t'absous de tes péchés », mais moi, un tel, « Je t'absous de tes péchés ». Pratique qui va être généralisée par la suite dans l'Église catholique tout entière. Donc, très gros deuxième point, très gros épanouissement du monachisme au XIIe siècle. Troisième élément marquant du XIIe siècle, c'est le développement de la philosophie, et notamment la naissance de la scolastique. La scolastique, c'est une manière de raisonner qui va marquer l'Église catholique tout entière, jusqu'à nos jours. En fait, il y a, depuis les origines, une dérive du christianisme vers la théologie grecque, la philosophie grecque, pardon. Et dans le courant du Moyen-Âge, ce qui est proprement biblique et théologique va s'estomper au profit de la philosophie. Et le XIIe siècle en particulier va voir l'apogée de la spéculation philosophique. Et bientôt, à partir de cette époque, la foi chrétienne va se trouver essentiellement réduite à un ensemble de spéculations philosophiques. Et jusqu'à aujourd'hui, le catholicisme moderne est sous-tendu par un tissu philosophique extrêmement serré qui est l'héritier direct de la scolastique du XIIe siècle. Alors c'est très complexe. C'est très très complexe comme spéculation. Je vais vous montrer simplement quelques aspects. Évidemment, il faudrait des heures et des heures parce que la scolastique, c'est une discipline. Il y a des gens qui se spécialisent en cela. Parlons tout à l'heure des dominicains ou des jésuites. Ce sont les grands, grands spécialistes de la scolastique jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est une méthodologie, essentiellement, c'est-à-dire une méthode de raisonnement qui embrasse deux aspects, le temps et l'existence. Ce sont les deux domaines où s'exerce la scolastique. La méthode scolastique part d'une question. Où réside la réalité ? Voilà où on en est. Dans le particulier ou dans le général ? Et selon que l'on donne telle ou telle réponse à cette question, c'est-à-dire que l'on répond « la réalité est dans le particulier » ou « la réalité est dans le général », on est soit réaliste, soit nominaliste. Donc deux écoles scolastiques vont naître au Moyen-Âge, l'école réaliste et l'école nominaliste, et l'harmonie entre les deux n'ira pas toute seule. Il va y avoir de graves conflits à cette époque-là. Un des scolastiques de cette époque-là, extrêmement en pointe, on pourrait dire, c'est Roscelédin, qui est un Breton. À tout seigneur, tout honneur. Roscelédin, il est né en 1092. Et ce Roscelédin était arrivé à la suite de ses spéculations philosophiques à l'idée que Dieu n'est finalement qu'un concept. Voilà. Ça va très loin, évidemment. Bonne conclusion. Pour cet exploit-là, il sera condamné. C'est dangereux, la philosophie. En opposition à Roscelédin, les réalistes, eux, affirment, alors tenez-vous bien, que l'espèce est une substance contraire. J'espère que vous êtes édifiés avec ça. Voilà. Le XIIe siècle est aussi l'époque où, parmi les scolastiques, naît ce qu'on appelle la querelle des universaux, qui va aussi diviser le Moyen-Âge. Son promoteur est Pierre Abélard. Qu'est-ce que c'est que les universaux ? Pierre Abélard professe que les universaux, c'est-à-dire le général, existent en tant qu'idée dans l'esprit de Dieu de toute éternité. Mais ils se manifestent dans l'individuel, dans des caractères types. J'espère que vous avez compris. Avec ça. Un certain Pierre de Bruysse s'élève contre cette doctrine et son opposition à Abélard l'amène à mettre en question la messe, le salut par les œuvres, la hiérarchie et même les sacrements. Oui, c'est des réformes. Et ce qui est grave, c'est que Pierre de Bruysse a de nombreux partisans parmi le peuple, en France notamment. Il s'élève avec force contre l'intellectualisme qui est prôné par les philosophes scolastiques, notamment par Anselme et par Abélard. Anselme est le deuxième grand nom de la scolastique du Moyen-Âge, qui lui a établi le principe de causalité, qui est d'ailleurs encore un des principes essentiels de la logique. Notamment, c'est sur ce principe de causalité qu'est basée toute la science moderne. Savoir que chaque effet a une cause. Que s'il y a un phénomène que l'on observe, il faut en rechercher la cause. Et qu'on en remonte ainsi de cause en cause. Je ne sais pas moi, par exemple, pourquoi la chaise est tombée ? Parce que quelqu'un l'a poussée. Et pourquoi quelqu'un l'a-t-il poussée ? Parce qu'il n'a pas fait attention. Pourquoi n'a-t-il pas fait attention ? Et ainsi, etc. On remonte aux causes premières. Et la cause première, c'est Dieu, automatiquement. Et alors, à partir de là, on arrive, selon les scolastiques, à prouver l'existence de Dieu. Et on arrive aussi à cette conclusion forte, que Dieu fait des choix. Et c'est ainsi qu'Anselme émet ce qu'on appelle la preuve ontologique de l'existence de Dieu, à partir du principe de causalité. La preuve ontologique de la connaissance de Dieu, de l'existence de Dieu, est en gros, je la résume à peu près comme ceci. Dieu est l'être le plus grand que mon esprit, que l'esprit humain puisse concevoir. Si Dieu n'existe pas, il n'est pas plus grand que moi, puisque moi j'existe. Donc Dieu, qui est automatiquement plus grand que moi, puisque je peux en moi-même concevoir l'idée de quelque chose qui est plus grand que moi, ça veut dire que Dieu existe. J'espère que vous êtes convaincus après ça. Autrement, il ne serait pas le plus grand. Seulement, lui répondent les gens comme Pierre Dubrus, l'homme peut aussi concevoir des réalités qui n'existent pas. Donc la preuve ontologique ne tient pas. À partir de la scolastique, Abélard, lui, arrive alors à des conclusions étonnantes. Il nous fait grâce de toutes ces démonstrations, parce que je pense que ça vole un peu trop haut dans la stratosphère, et puis c'est pas tellement intéressant. Abélard en vient à nier la nécessité de la mort de Jésus. Ça, c'est nettement plus grave. Pour lui, Jésus n'est qu'un exemple et il n'a rien qu'une influence morale. Et ça veut dire qu'il arrive à l'affirmation que le salut n'est rien d'autre qu'un salut par les œuvres. C'est la conséquence, si vous voulez, extrême de la doctrine catholique du salut par les œuvres. Si l'homme peut se sauver par ses œuvres, alors à quoi bon la mort de Jésus ? Jésus est l'exemple qui nous montre ce qu'est l'œuvre bonne qu'il faut pratiquer pour être sauvé. Contre cela s'oppose Pierre Dubrus, ainsi que nous l'avons vu. Abélard développe aussi la casuistique qui va être très 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 développée par la théologie catholique scolastique par la suite, contre laquelle en son temps s'élèvera Pascal d'ailleurs, à savoir que la culpabilité de l'acte est dans l'intention et non pas dans l'acte lui-même. Ça veut dire que si je n'ai pas véritablement l'intention de mal faire et que je fais mal, je ne suis pas coupable, ce qui est antibiblique. La Bible, en effet, prévoit déjà dans l'Ancien Testament des péchés, des sacrifices pour les péchés commis involontairement. Certes, dit la Bible, la culpabilité est moindre, mais elle est là quand même. Mais Abélard dit non. La culpabilité n'est que dans l'intention. Et c'est pourquoi ceux qui ont tué Jésus ne sont pas coupables, car ils avaient une bonne intention. Et non seulement ils avaient une bonne intention, qui était celle justement d'épargner en quelque sorte le peuple, la ruine de Rome, la ruine de Jérusalem par les Romains, mais ils sont même sauvés. Comme le seront de nombreux païens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui agissent bien. C'est la conséquence logique du salut par les œuvres. Puis il arrive à une autre hérésie, la vieille hérésie sabellianiste, c'est-à-dire la doctrine unitarienne qui nie la Trinité, à savoir que la divinité est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit selon les formes qu'elle prend. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étant que des formes diverses que prend la divinité. Par exemple, le Père, c'est la puissance, le Fils, c'est la sagesse, et le Saint-Esprit, c'est la bienveillance. Donc, quand Dieu se manifeste dans sa puissance, il est Père. Quand il se manifeste dans sa sagesse, il est Fils. Quand il se manifeste dans sa bienveillance, il est esprit. Bon, cette hérésie est condamnée par le Concile de Soissons, heureusement. Enfin, Abélard nie l'inspiration d'écriture. Il n'y a pas besoin d'inspiration. La raison humaine, à elle seule, permet de découvrir la vérité. Donc nous voyons ici que nous sommes véritablement dans une philosophie rationaliste qui a évacué tout ce qui était véritablement spirituel. Nous sommes dans un intellectualisme total. À côté de cela, la philosophie d'Abélard l'amène à au moins quelque chose de positif et d'extrêmement rare à cette époque-là. Il est tolérant. Ce qui aussi n'était pas tout à fait prisé à cette époque-là. Il en fera la mère expérience lui-même. À côté de lui se trouve Anselme, dont nous avons déjà parlé, qui deviendra archevêque de Canterbury. Ces deux hommes, Abélard et Anselme, constituent le noyau dur du XIIe siècle. Années qui vont de 1125 à 1198, et qui sont les années de l'apogée de la philosophie scolastique au XIIe siècle. Mais le fait marquant du XIIe siècle, c'est l'épopée des croisades. Les croisades, évidemment, qui continuent en Orient. En Orient, où la chrétienté orientale, elle, continue à vivre tant bien que mal avec ce phénomène des croisades qui, d'une certaine manière, lui a apporté beaucoup, et puis qui, en même temps, aussi, est une gêne. Le XIIe siècle va voir l'organisation de deux nouvelles croisades pour secourir les États latins d'Orient. C'est le pape Eugène III, 1145-1153, qui va les lancer, notamment la deuxième croisade après l'annonce de la prise d'Édesse par les Turcs. Déjà, Pascal II, avant sa mort, avait envisagé la possibilité de relancer la croisade qui s'essoufflait. Notamment, il avait engagé des négociations avec les Comnènes, c'est-à-dire la famille régnante de l'Empire byzantin, pour mettre fin au schisme de 1053. En fait, ces négociations-là vont échouer. Et elles vont échouer notamment à cause des croisades. Disons un mot, si vous voulez, de l'organisation des États latins avant de parler de la deuxième croisade. À partir du moment où un État chrétien s'est instauré en Terre Sainte, la chrétienté a l'impression de vivre le millénium. La papauté est toute puissante, domine sur l'Europe tout entière. Nous l'avons vu, elle est à son apogée. Elle domine jusque la Terre Sainte et par conséquent, nombreux sont ceux qui, poussés par des rêves millénaristes, vont rejoindre les États latins d'Orient. Il y a en arrière-plan aussi l'impression que l'on revit un certain nombre d'épopées de l'Ancien Testament. La conquête du pays par Josué, que la chrétienté est le nouveau peuple de Dieu, le nouvel Israël, qui revit les combats de David contre les Philistins, contre les Amalécites, contre les Égyptiens, etc. Et cela dans la droite ligne de ce qu'avait annoncé Augustin, ce qu'avait enseigné Augustin de son temps, à savoir que l'apogée de la chrétienté coïnciderait donc avec l'instauration du millénium annoncé dans l'Apocalypse. Donc, un messianisme humain. Et ça, c'est très intéressant parce que nous retrouvons cette pensée aussi en filigrane constamment dans le catholicisme, y compris dans le catholicisme moderne. Et dans le document de Bâle, c'est exactement ça. Le messianisme terrestre. Le messianisme terrestre qui a connu son apogée au XIIe siècle avec la domination de la chrétienté. Et c'est alors que, devant cet état de choses, les papes vont tenter un nouvel élan missionnaire de la chrétienté. En effet, nous souvenons que depuis un siècle, l'élan missionnaire s'était arrêté avec la conversion de la Scandinavie, qui étaient les derniers états européens à se convertir au christianisme. L'élan missionnaire avait été arrêté. Maintenant, la chrétienté se sent assez forte pour tenter une réévangélisation de l'islam, des musulmans. Alors, de deux manières, d'une part par la conquête politique, et ça, donc, c'est commencé avec les croisades, et maintenant, on va tenter de les amener aussi à la foi chrétienne par l'élan missionnaire. Pour cela, il faut organiser les États croisés. Les États croisés qui sont solidement assis, mais qui maintenant doivent s'organiser. Baudouin de Boulogne va être le premier qui va organiser ces états, notamment autour de la ville d'Édesse, qui se trouve devenir un comté. Et dans ce comté, il va distribuer des seigneuries. Et de nombreux nobles européens qui n'ont pas reçu de seigneurie en Europe parce qu'ils sont les derniers fils, par exemple, de famille, etc., eh bien, vont être tentés par le mirage de l'Orient, non pas pour des raisons spirituelles, mais dans le but de recevoir des seigneuries. En 1150, la principauté est établie, ainsi qu'une deuxième principauté, celle d'Antioche, sous la direction de Bohémond. Le troisième État latin d'Orient, c'est le comté de Tripoli, qui est créé par Raymond de Saint-Gilles, et le quatrième, c'est le royaume de Jérusalem. Il y en aura ensuite un cinquième, un petit peu plus tard, qui sera la principauté d'Outre-Jourdain, c'est-à-dire de Transjordanie, organisée autour du krach de Moab, qui s'étendra jusqu'à la mer Rouge, mais pour un peu de temps. En fait, ce qui manque le plus à ces États latins, ce sont des colons. Pour pouvoir s'établir solidement dans un contexte quand même musulman, il faut que viennent des colons d'Europe. Les Européens ne sont en effet qu'une minorité au milieu des musulmans. Ce sont eux qui tiennent l'armée, qui tiennent donc le pouvoir, mais les barons qui ont organisé les quatre États latins, royaume des deux Siciles, pour deux raisons. Parce que d'une part, ces deux républiques, sont relativement proches de la Terre Sainte et qu'elles ont une politique marchande et maritime très importante, ce qui fait qu'elles sont intéressées, pour des raisons commerciales, à avoir des relations étroites avec les royaumes latins d'Orient. Plus tard, il y aura Gênes, la République de Gênes, qui va aussi suivre le même chemin. Et l'on peut dire que si la première croisade a été incontestablement la croisade de la foi, les autres croisades vont être des croisades qui vont avoir essentiellement des buts mercantiles, politiques, etc. Et ce qui va d'ailleurs aboutir à l'échec de la croisade. Les Génois, les flottes génoises et vénitiennes, sont, pour dire, le cordon ombilical qui relie les États latins à la chrétienté occidentale. Sans les flottes de Gênes et de Venise, les croisés n'auraient jamais pu subsister. Ce sont ces flottes qui ramènent le ravitaillement dont ils ont besoin, les renforts en hommes, en chevaux, en tout ce qu'on voudra, machines de guerre et autres dont ils ont besoin, et qui leur permet aussi de rester en contact avec la mère patrie. Les bateaux en question font deux allers-retours par an. Et à partir de ces flottes, se créent, comme nous l'avons vu, les ordres militaires, les ordres de moines-soldats, qui vont servir de gendarmes, on pourrait dire, de la Terre Sainte. Nous avons parlé, je vous rappelle, les deux principaux ordres, les hospitaliers, les chevaliers de Saint-Jean de l'Hôpital, et les chevaliers du Temple, encore appelés Templiers. Ce sont des moines soldats, c'est-à-dire qu'ils prêtent les trois serments monastiques, les trois vœux monastiques habituels, chasteté, pauvreté, obéissance, et leur rôle essentiel, c'est de défendre les pèlerins et de défendre aussi les conquêtes de la chrétienté contre les musulmans. La croisade, à la fin du siècle précédent, s'était achevé alors que Tripoli était assiégé. Et il faudra attendre le début du siècle, l'année 1100 exactement, pour que Bohémond soit capturé par un des chefs musulmans, Danishment, alors qu'il s'apprêtait à prendre sa capitale, Malatia. Danishment a essayé de faire en sorte que le siège soit levé, il lui a tendu une embuscade et Bohémond, bêtement, est tombé dans l'embuscade. Saint Gilles, quant à lui, est reparti dans ses états, la croisade finie. Godefroy de Bouillon, nous l'avons vu, est mort cette même année. Ça veut dire que les états latins n'ont pratiquement plus de leadership. Bohémond est en prison, Saint Gilles est reparti, Godefroy est mort, il n'y a plus de leader. Et au début du siècle, la croisade se trouve dans une situation difficile. Les musulmans tentent leur chance, ils tâtent la volonté de résistance chrétienne en ravageant les environs de Damas, pratiquement de façon sans aucune opposition. Quant à Baudouin, il est à nouveau, lui aussi, capturé par Danishment, dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'il tombe dans une embuscade, alors qu'il tentait de s'emparer, de descendre pour s'emparer de Jérusalem, puisque après la mort de Godefroy, le peuple de Jérusalem avait décidé de faire appel à lui pour qu'il succède à son frère. C'était en effet le frère de Godefroy de Bouillon. Et à la mort de son frère, qui est mort vraisemblablement empoisonné, n'est-ce pas, par le patriarche Humbert, eh bien, Baudouin devait lui succéder. Pas de chance, lui aussi tombe dans une embuscade, il est fait prisonnier. 24 octobre 1100. C'est alors que intervient la victoire de Tripoli, qui va donner un nouveau souffle à la situation difficile des croisés. Fahr el-Malour, qui est le chef musulman de Tripoli, craint la victoire de Doulak, de Damas, qui lui aussi convoite Tripoli. Et au moment où Baudouin est capturé, eh bien, il lui donne les moyens de s'échapper. Voyez-vous, la division des musulmans sert les intérêts des chrétiens. Ce qui fait que Baudouin peut rejoindre Jérusalem et être sacré roi de Jérusalem l'année suivante, à Noël. Il est sacré le premier roi de Jérusalem dans la basilique de la Nativité à Bethléem. L'année suivante, 1101, une première vague de colons arrive à Constantinople pour venir renforcer les rangs clairsemés des croisés, dont beaucoup, comme nous l'avons vu, sont repartis. En mai de cette année-là, rien moins que 100 000 hommes, commandés par Raymond de Saint-Gilles, arrivent à Constantinople, franchissent le Bosphore et vont jusqu'à s'emparer de la ville musulmane d'Ankara, au cœur de l'Anatolie. Le but de ces gens-là, évidemment, c'est de venir s'installer en Terre Sainte. Ce sont des colons qui ont tout quitté, des aventuriers de tout poil, des gens pas tellement recommandables d'ailleurs, loin s'en faut, et qui plus est doivent aussi vivre pendant le long voyage qui les amène d'Europe jusqu'en Terre Sainte. Vivre, se ravitailler, ça veut dire une chose, c'est piller l'habitant. Il n'y a pas de problème, hein. Seulement qu'en plus de ça, cet habitant-là est un chrétien, ça pose certains problèmes. Là quand même, on a beau être un aventurier, un homme de sac et de cordes, piller des chrétiens, c'est quand même pas recommandé. Et c'est alors que soudain, il y a une idée géniale. En Europe, il n'y a pas que des chrétiens. Heureusement, il y a aussi des juifs. En général, les juifs sont fortunés. Formidables. On les pille, on les massacre, on les tue. Dans un premier temps, les juifs sont défendus par leurs concitoyens chrétiens qui ne comprennent pas comment cette horde d'aventuriers comme ça tombe sur des gens paisibles avec lesquels ils ont toujours été en bon terme. Et puis quand les croisés sont passés, les croisés n'ont pas tout emporté, il reste les maisons, il reste des biens que les croisés n'ont pas pu emporter, des meubles. Alors ces chrétiens-là se disent qu'après tout, c'est pourquoi ne s'emparerait-ils pas aussi des biens des juifs? Seulement, en même temps, ils ont un petit peu mauvaise conscience, parce que quand même l'Évangile dit que tu ne voleras pas. Et c'est alors que naît dans l'Église du XIIe siècle la doctrine du déicide. Il faut justifier les exactions des croisés. Et la croisade voit l'apogée de l'antisémitisme chrétien. L'antisémitisme, pensé théologiquement, naît au moment des croisades. Parce qu'il faut justifier le pillage des Juifs et le massacre des Juifs. Pourquoi peut-on piller, massacrer, violer les Juifs? Parce qu'ils ont tué le Christ. Et c'est l'époque où naissent toutes sortes de légendes pour avilir les Juifs. Il y a notamment cette idée que les Juifs ont les pieds fourchus, comme le diable. Ils tuent un enfant chrétien pour prendre son sang au moment de la Pâque, pour faire le pain azim. Ils profanent les hosties dans les églises. Ils les font saigner, puisque l'hostie étant le corps du Christ, quand on la casse, eh bien, elle saigne. Et les assassins du Christ qu'ils sont se plaident à rééditer leur meurtre, leur crime abominable d'avoir tué Dieu, ici, c'est tuer Dieu, en profanant les hosties dans les églises. Et nombreux sont les Juifs qui, à partir de cette époque-là, vont être brûlés vifs sous une fausse accusation, soit de meurtre rituel d'enfants, soit de profanation des hosties. Il y a cette idée que les Juifs vivent dans la saleté, dans la crasse, avec les porcs, ce qui est un petit peu cocasse. Ils se nourrissent des excréments de porcs et ils boivent l'urine des porcs. Ils ont des règles comme les femmes. Ils se nourrissent de tout ce qui est impur et ils sentent mauvais. On reconnaît un juif à ça, n'est-ce pas ? Il s'agit de justifier les exactions des croisés. Alors évidemment, la réaction des juifs va être absolument certaine. Le divorce entre juifs et chrétiens se consomme au Moyen-Âge, au moment des croisades. Si le juif est l'image du diable pour les chrétiens, eh bien, les chrétiens vont être l'image du diable pour les juifs. Et dans l'inconscient collectif juif, les croisades resteront jusqu'à ce jour, on peut dire, l'expression du christianisme. C'est intéressant de constater que les exactions des croisés seront surtout en Allemagne. Et il y a une relation aussi ensuite avec l'hitlérisme, ça c'est un autre chapitre. Parce que la haine des juifs s'est transmise de génération en génération depuis les croisades jusqu'à Hitler. Okay. Alors donc ces 100 000 hommes arrivent. Jean de Sac et de Corde, nous l'avons dit, ils ont massacré, ils ont pillé, ils ont détruit partout sur leur passage. Et ils apprennent, une fois arrivés à Ankara, que Bohémond est prisonnier. Leur but était la Terre Sainte, et il est certain que ces 100 000 hommes seraient arrivés en Terre Sainte, tout le sort des États latins de Terre Sainte aurait été changé. Seulement, ils ont la bonne idée d'aller délivrer Bohémond, prisonnier, nous l'avons vu. Danishmen se frotte les mains, il n'en espérait pas tant. Souvenons-nous comment la première croisade avait eu un mal fou à traverser les défilés de l'Anatolie pour déboucher dans la plaine d'Antioche. Et comment, grâce notamment à Godefroy de Bouillon, sa bravoure, les 4 divisions croisées avaient réussi à mettre en fuite les armées musulmanes qui leur avaient tendu une embuscade. Et bien sûr, le sort de la croisade avait dépendu de cette bataille. À nouveau, les croisés vont devoir s'engager dans ces défilés étroits. À Menufun, Danishment et Arlan tendent une embuscade aux croisés. Et cette fois-ci, le sort des armes va être défavorable aux croisés. Il n'y a pas un Godefroy de Bouillon pour organiser une résistance cohérente. Ce sont des hordes de gens qui sont habitués à massacrer des juifs qui se défendent à peine. Et ils vont tomber ici sur une armée musulmane qui s'est ressaisie, sur une armée musulmane qui a tiré les leçons de sa défaite dans les mêmes conditions, pratiquement au même endroit, face à Godefroy de Bouillon, trois armées croisées sont massacrées. Une poignée de ces 100 000 hommes arrivera en Terre Sainte. On peut dire que l'essentiel des colons qui auraient pu renforcer la Terre Sainte n'y arriveront jamais. La croisade ne s'en relèvera pas. On peut dire que l'échec de la croisade naît dans ce défilé-là, lorsque cette masse d'hommes qui pouvait venir donner un sang neuf aux États latins de Jérusalem va se faire ainsi décimer par les musulmans. Il va falloir donc prendre acte de cette défaite qui va redonner une sérieux coup de positif au moral des musulmans, qui en avaient bien besoin, et qui va leur montrer que les croisés ne sont pas invincibles. Et la situation du royaume latin de Jérusalem va devenir extrêmement critique. Heureusement, le premier roi de Jérusalem, Baudouin Ier, n'est pas un mou. Il va être un homme qui va être à la hauteur de la situation. Et malgré ces conditions défavorables dans lesquelles il se trouve plongé, il va réussir à établir le royaume de Jérusalem. On peut dire que Baudouin Ier sera le fondateur du royaume latin de Jérusalem. Et dans des conditions difficiles, le royaume de Jérusalem va naître. Ça, on verra la prochaine fois. Est-ce que vous avez quelques questions là-dessus ?